Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Evelise Blanc-Deleuze, qui est chef mission cinéma et industrie créative au ministère des Armées. Bonjour Evelise.
Bonjour.
C'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Alors je crois que tu as eu un parcours justement très décloisonné avant d'arriver à cette fonction. Est-ce que tu peux nous dire un peu les grands temps forts ?
Oh, alors pour raconter une longue carrière en quelques mots, en fait j'ai commencé ma carrière avec une chance inouïe, j'ai eu l'opportunité de lancer Nintendo en France. Donc j'ai un vieux surnom qui continue à me poursuivre aujourd'hui, je suis Madame Nintendo.
D'accord. Donc, pas Madame Mario. Parce qu'on...
Non, Madame Nintendo, mais si tu as joué à la NES 8-bit, à la Game Boy, avec Duck Hunt, avec Donkey Kong,
le
avec
fameux
Mario,
combo Mario et Duck Hunt qui a bercé beaucoup d'enfants.
Exactement, et bien c'est grâce à moi ou à cause de moi, ou je sais pas, et si tes parents t'ont grondé parce que tu jouais trop aux jeux vidéo, c'était sans doute à cause de moi.
D'accord.
Donc j'ai commencé chez Nintendo, on Marquant, était deux ça. En arrivant, c'était extraordinaire. Et puis quand je suis partie plusieurs années après, j'avais 60 personnes à mon département, je m'occupais du marketing, de la communication. J'ai rejoint le groupe Canal pour créer et diriger une filiale qui s'appelait Canal Plus Multimédia et qui était chargée de développer sur ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies, donc tout début d'Internet, tout début des CD-ROM, tout début, enfin les jeux vidéo étaient là, des programmes interactifs à partir des droits détenus par le groupe.
Okay.
Et chez Canal, j'ai eu la chance de lancer ce qu'on appelle aujourd'hui un métaverse, qui était le premier
avant
métaverse.
Avant Mark Zuckerberg, donc.
Oui, voilà.
Il y a plus de 20 ans avant.
Oui, mais plus de 20 ans avant.
Il est à la ramasse, Marc.
Complètement à la ramasse, mais je n'ai pas sa fortune. C'est dommage. Et donc, on a lancé ce premier métaverse qui s'appelait le Deuxième Monde, qui était un Paris virtuel en 3D avec des petits avatars qui se promenaient dans ce Paris virtuel. Enfin, c'était quelque chose d'extra. J'ai quitté le groupe Canal ensuite pour aller dans le groupe Lagardère pour faire un peu la même chose à partir des droits détenus par le groupe Lagardère. Puis j'ai quitté le monde merveilleux du privé pour découvrir le monde non moins merveilleux du public, mais très différent.
Qu'est-ce qui a fait ton shift de ce monde privé au monde public, finalement ?
Une raison toute simple, c'est que quand j'étais chez Lagardère, ça correspondait peu ou prou à l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Le groupe Lagardère, qui était avant tout un groupe financier quand même, a coupé des budgets. Et moi, j'étais venue pour faire plein de choses avec des budgets relativement conséquents. Je me suis retrouvée avec des budgets nettement moins conséquents. Et donc, je suis partie. Et j'en ai profité pour partir et pour rejoindre la chaîne parlementaire. Et
d'accord. Là, LCP, c'est ça ?
LCP. Et la nouvelle aventure, car c'était à l'époque un robinet à images de ce qui se passait dans l'hémicycle.
Okay.
Donc tout l'enjeu était d'en faire une vraie chaîne de télé avec une vraie grille des programmes, un positionnement qu'on a volontairement positionné à l'inverse des chaînes d'information en continu. Donc le principe était de donner du temps au temps et d'expliquer les grands enjeux, d'expliquer les décisions politiques gauche-droite en respectant bien évidemment la parité qui était en vigueur au sein même de l'Assemblée nationale. Donc je suis restée à la chaîne pendant plusieurs années. On l'a sorti de son ghetto câble et satellite pour participer au lancement de la TNT, parce qu'il était important d'en faire une chaîne citoyenne. Donc j'ai eu la chance de participer au lancement de la TNT. Puis ensuite, lorsque le gouvernement a décidé de généraliser la TNT en France, il a créé un groupement d'intérêt public, un GIP. Et le président du GIP de l'époque m'a demandé de le rejoindre pour organiser le passage de la France au tout numérique. Voilà ce que j'ai fait pendant 4 ans. Et là, j'ai travaillé avec les principales chaînes analogiques à l'époque, c'est-à-dire TF1, M6, Canal, Arte, France Télévisions, etc. Et puis bien évidemment, les ministères de la culture, Bercy, parce qu'ils avaient quand même...
Ça dépendait, LCP, ça dépendait du ministère de la culture
non,
ou
LCP,
de...
LCP à l'époque était totalement indépendante, ça dépendait exclusivement de l'Assemblée nationale, mais ça c'était après avoir quitté LCP, donc c'était un GIP totalement qui dépendait à 50% de l'État et à 50% des principales chaînes analogiques.
Et alors comment se fait la bascule après avec le ministère des Armées?
Alors il y a eu deux temps, il y a eu donc la bascule de la France au tout numérique, c'est très bien passé. Donc, dans un premier temps, j'ai aidé des pays africains, enfin notamment africains, mais pas uniquement, à organiser leur transition vers le numérique. Donc, j'ai fait du conseil jusqu'au moment où mon ancien boss chez Canal m'a demandé si j'acceptais qu'il donne mon nom au ministère des Armées. Donc, au départ, j'ai dit, mais pourquoi faire?
C'est vrai que c'est un peu inédit, quoi.
Ah, ben, c'est totalement inédit, c'est totalement déstructurant et déconstruit, en tout cas. Enfin, en tout cas, ça paraît comme ça. Et en fait, il m'a expliqué que le ministère des Armées cherchait quelqu'un qui avait une bonne connaissance du milieu des loisirs, on va dire de l'entertainment, au sens transversal du terme.
Là, on était en quelle année, là, à ce moment-là?
Donc là, on était 2019.
2019, il n'y a pas très longtemps.
Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans.
Juste avant Covid, quoi.
Juste avant le Covid.
Ouais.
Et donc, il cherchait quelqu'un qui avait une bonne connaissance de l'entertainment, du cinéma, de l'audiovisuel, mais aussi des jeux vidéo, mais aussi de la BD, etc. Qui en ait une vision transversale, qui connaissent des mondes dans ce milieu-là, qui connaissent les contraintes liées au service public, parce que c'est quand même c'est très différent, le public du privé, et qui connaissent ce que c'est que la communication d'influence. Et je cochais à peu près ces cases, donc je dis, pourquoi pas. Je suis allée les voir.
Intéressant comme challenge.
Voilà, je suis allée les voir, et voilà. Et je suis maintenant, donc, j'ai été nommée responsable de la mission cinéma et industrie créative.
Et ça veut dire qu'ils avaient la volonté donc, de dynamiser un pôle audiovisuel qui était peut-être pas... Ils en étaient à quel stade finalement quand toi, tu y t'en appelais?
Alors, ce n'est pas un pôle audiovisuel. Oui. En fait, c'est un département qui dépend de la DICOD, qui, en fait, qui est la délégation à l'information, à la communication du ministère.
D'accord.
Il y a l'équivalent aux États-Unis.
Oui, parce donc, que je pensais, quand je t'écoutais, je pensais aux États-Unis où je sais que c'est très développé.
Exactement.
Dans les The Army, le ministry, enfin de l'image, parce que pour moi, adorer le cinéma, quand on pense au Top Gun ou au Apollo 13, on sait que c'est dans la culture américaine depuis très longtemps.
Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le ministère des Armées, pendant très longtemps, a répondu à des sollicitations de créateurs, de scénaristes ou de producteurs sur des films, mais de façon, je dirais, ponctuelle. Et ça a véritablement démarré avec la création de la série Le Bureau des Légendes.
Ah oui, qui a marqué d'ailleurs.
Qui a marqué. Pour la première fois, Le Bureau des Légendes, donc le créateur
Éric
Rochant, le scénariste.
Éric Rochant, le showrunner.
Voilà, le showrunner et Alex Berger, le producteur, ont démarché le ministère des Armées en disant on veut faire une série sur la DGSE. Et en fait, dès le départ, il y a eu cette collaboration très étroite entre la DGSE et le showrunner et le producteur, ce qui a donné naissance à la série maintenant bien connue, internationalement connue, Le Bureau des Légendes.
Dont va être fait le remake par Georges Clooney, j'ai vu.
Exactement.
Pas mal.
Exactement, super, super idée. Et donc ça, c'était en 2015. Mmh. Et le ministre de la Défense de l'époque, le ministre des Armées de l'époque, Jean-Yves Le Drian, s'est dit, mais on devrait généraliser ça. C'est-à-dire que plutôt que de répondre uniquement aux sollicitations ponctuelles que nous pouvons recevoir, on devrait avoir une démarche proactive, une démarche volontariste pour se tourner vers la création et vers le monde du cinéma et le monde de l'audiovisuel dans un premier temps et les inciter, en tout cas leur donner envie
De porter ce type de sujet.
De porter ce type de sujet à l'écran ou sur l'antenne. Donc, le ministre de l'époque, donc Jean-Yves Le Drian, a créé la mission cinéma en 2016. Mmh. 2017, arrivée de Florence.
Et donc ça, c'était beaucoup à l'occasion du Bureau des Légendes. C'est
à
ça
l'occasion
qui a été
du Bureau des Légendes, qui a été en fait le déclencheur, je dirais, l'élément déclencheur, l'élément fondamental à la création, à l'origine de la création de la mission cinéma. 2017, arrivée de Florence Parly, la nouvelle ministre des Armées, qui perpétue et qui continue, je dirais, cette politique ancrée par le ministre précédent et qui signe un accord avec la Guilde des scénaristes, qui est, je dirais, un des principaux syndicats d'auteurs de scénaristes fiction en France. En disant à ces derniers, mesdames et messieurs, la seule limite sera votre imagination, donc en ouvrant grand les portes du ministère pour leur donner envie. 2019, j'arrive. Et on me demande d'élargir cette mission à l'ensemble des industries créatives, c'est-à-dire le cinéma, bien sûr, l'audiovisuel, mais aussi la BD, mais aussi le jeu vidéo, mais aussi la photo, mais aussi, enfin, en gros, tous les supports qui peuvent servir à communiquer. Et on est parti d'une idée très simple. On s'est rendu compte que les armées sont très très mal connus du grand public depuis la suppression du service militaire. Les Français ont une bonne image de l'armée, puisqu'on fait régulièrement des sondages, et on a entre 84-85% des Français qui ont une bonne, voire bonne image de leur armée, des militaires en général. En revanche, ils ne la connaissent pas. Alors, ils en ont des idées qui, de toute façon, bonnes ou mauvaises, peu importe, en général, sont fausses. Parce que la seule image ou les seules idées qu'ils ont de l'armée, c'est éventuellement pour les plus âgés, à l'occasion de leur service militaire, mais qui a été supprimé maintenant pendant il y a plus de 25 ans. Et donc, depuis, l'armée s'est professionnalisée, n'a strictement plus rien à voir. Donc, l'idée de départ, c'est vraiment faire découvrir aux gens qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Voilà.
Donc, c'est donner une image plus proche, un peu plus les coulisses, finalement, du monde de l'armée que les gens ne connaissent pas, en fait.
Mais
c'est
à travers, exactement. Mais à travers la fiction, à travers des histoires que l'on va raconter, à travers des documentaires, bien sûr, mais à travers surtout de la fiction. En fait, c'est faire un petit peu ce que les Américains font depuis maintenant beaucoup plus longtemps que nous.
Ça, c'est sûr.
C'est ouvrir les portes du ministère, faire découvrir aux créateurs, aux auteurs, scénaristes, documentaristes, producteurs, réalisateurs, l'envers du décor. Comment ça marche, leur donner envie de découvrir, de parler de nos sujets, puis raconter des histoires sur nos sujets. Voilà.
Super intéressant. Et alors, je me fais une remarque, c'est que moi qui adore le cinéma ou les séries, c'est vrai qu'en France, on a l'impression, alors parce que l'armée, c'est aussi lié un petit peu à l'histoire, et qu'en France, on a du mal, je trouve, à parler de notre histoire un petit peu. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, je ne veux pas généraliser, parce qu'il y a quand même des films d'histoire. Je pensais à De Gaulle ou même au film Lambert Wilson sur l'armée, tu avais dû le voir, hein, qui était pas mal. Mais c'est vrai que je trouve dans la manière dont on, il y a toujours un peu, moins de représentation. Je pense que les Américains avec la guerre du Vietnam, ils arrivent plus facilement à parler de leurs événements.
Alors il y a deux raisons à cela. Il y a pas mal de choses sur l'histoire et notamment pas mal de documentaires sur des faits historiques, etc. Mais la crainte de la plupart des producteurs ou de réalisateurs, c'est le coût de production.
Ah oui, il y a ça aussi.
Et ça, c'est une différence énorme parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs centaines de millions d'euros, enfin ou de dollars, pour faire des films.
Budgets,
on n'est pas du tout dans le même budget. En France, le budget pour faire un film est un budget beaucoup plus modeste et beaucoup plus réduit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, je dirais, il y a un sentiment de patriotisme aux États-Unis qui est beaucoup plus développé qu'en France. Et en France, c'est assez rigolo d'ailleurs, il y a une espèce de schisme entre l'image que les Français ont du militaire, des militaires ou de la fonction, qui est très bonne, et l'image que les créateurs ou les réalisateurs ont de l'armée ou du ministère de manière globale, qui elle est beaucoup plus, je dirais pas antimilitariste, mais beaucoup plus réfractaire ou en tout cas beaucoup plus prudente. Ils ont toujours peur de la propagande. Voilà. Or, il y a vraiment deux mots chez nous qui sont tabous complètement. C'est propagande d'un côté et censure de l'autre. Au contraire, on parle souvent de la grande muette. Mais moi, je dis c'est faux. C'est exactement l'inverse. On est un ministère très ouvert et sans doute un des ministères le plus ouvert justement à la création. Avec ne serait-ce que la création de cette émission cinéma industrie créative, on est les seuls ministères à avoir une entité comme ça. Notre rôle, c'est ouvrir les portes. Et on travaille en fait de deux façons. En proactif ou en réactif. Alors en proactif, qu'est-ce qu'on fait? On organise ce que j'appelle des opérations découvertes, où on invite des scénaristes, des documentaristes, des réalisateurs, des producteurs, des dessinateurs de BD, enfin qui en veut, voilà, à venir découvrir un pan d'activité du ministère. Plusieurs exemples. Récemment, j'ai amené à la fin du mois de janvier, j'ai amené un groupe de scénaristes découvrir ce qu'était la guerre électronique.
Ah, vas-y, alors c'est intéressant pour les auditeurs.
Et donc, on les a amenés, on est partis, ils ont assisté, ils ont participé à un exercice dans l'Est de la France. Ils ont dormi sous la tente avec les militaires, ils ont pu échanger avec eux et on leur a expliqué à quoi servait la guerre électronique, comment ça fonctionnait, comment on déplie des antennes, comment on peut brouiller, comment on peut percevoir un signal, comment on peut l'identifier.
C'est à travers le satellite, si tu peux expliquer un peu le principe de
guerre. Ce sont des grandes antennes, puis en fonction du signal, etc., on peut savoir par qui le signal a été émis. Ils arrivent à savoir par qui le signal a été émis. Ensuite, ils arrivent à décoder le signal. Alors, je ne vais pas rentrer dans certains détails, d'abord, parce que je ne les connais pas.
On voit la logique, logiques un peu de,
mais ce sont des logiques
de signaux, de géopolitique.
Complètement. C'est savoir, c'est décrypter.
Et là, c'est terre, c'est pas forcément mer.
Là, c'est terre, mais la même chose en mer.
Parce que je pensais au Chant du Loup. Tu as dû le voir, le film, j'imagine.
Ah ben, non seulement on l'a vu, mais on l'a beaucoup aidé. On l'a aidé. Le Chant du Loup, c'est 36 mois de collaboration entre la mission cinéma, la Marine nationale et Antonin Baudry et le producteur pour créer le Chant du Loup.
Parce que ça, c'était une grosse prod pour le coup. Pour les Français, je trouve qu'il y avait un
très grosse
un
prod,
beau budget,
très, très hollywoodienne, très, très, très bien fait.
Et un peu mais là, précurseur qui parlait de la Russie.
Voilà, et ce qu'on a fait pour le Chant du Loup. Donc là, on a travaillé en réactif avec eux. C'est l'exemple typique hein, dans le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, on a invité Antonin Baudry, qui est le scénariste, à venir. Il est parti en immersion dans un sous-marin pour s'imprégner, je dirais, de l'ambiance très spécifique quand même d'un sous-marin, comment ça se passe. En fait, après, il a visité un sous-marin et on les a autorisés à reconstituer un sous-marin.
Il était où d'ailleurs ce sous-marin ? C'était dans le sud, non ? C'est vers Toulon ?
Ça a été tourné à Toulon, en partie à Toulon, en partie à Brest. Et c'était ensuite, ça a été, on les a autorisés à reconstituer un sous-marin à l'échelle 1 pour pouvoir véritablement percevoir les ambiances de confinement quand même que l'on trouve dans le sous-marin. Ils ont travaillé avec la Marine nationale pour tout ce qui est dialogue, pour tout ce qui est... Enfin, voilà. Et ça a été un travail...
C'est vrai qu'il m'a marqué ce film, parce qu'il avait une dimension un peu à l'Amérique, dans la facture, la production.
Tout à fait.
C'était assez impressionnant, je trouvais.
Mais il y a un film historique, tout à l'heure, tu parlais d'histoire.
Oui, pensez à Indigène, forcément.
Voilà, je ne parlais pas, c'est pas à Indigène.
C'était encore avant, Indigène.
C'était encore avant, mais je pense à un film historique, L'affaire Dreyfus, J'accuse.
Ah oui, beaucoup.
De Roman Polanski.
Avec Dujardin.
Avec Dujardin. Qui interprétait le colonel Picard à l'époque et qui s'est battu pour Dreyfus, alors qu'il était anti-Dreyfusard au départ.
J'ai beaucoup aimé le film, je trouvais.
Et le film était très beau, et en fait, on a travaillé avec Roman Polanski sur cette affaire-là. On lui a ouvert les portes du service historique de la défense. On a mis à disposition des conseillers militaires pour à la fois la tenue. Pour apprendre aux comédiens, à Dujardin notamment, mais aussi à Louis Garrel, comment on se tient, comment. Enfin, là, pareil pour les figurants, il y a quand même pas mal de figurants. Et donc, on a soutenu le film, y compris en termes de communication au moment de sa sortie. Donc, il y a des films historiques, il y a des films actuels.
Il y en a des bons, je pensais à Suite Dupontel aussi, Au revoir là-haut, mais c'était peut-être encore avant. Mais...
Non, c'était avant, mais
il était fort ce film aussi.
Il était très très fort. Et on aide. Alors, on travaille avec les scénaristes et les réalisateurs. On travaille avec eux soit sur un plan éditorial, où en fait on les met en contact. Chez nous, notre métier, c'est de les mettre en contact avec les spécialistes du sujet pour leur apporter un accompagnement éditorial, leur faire découvrir, venir enrichir leur base documentaire en fait.
Parce que c'est un gros travail de recherche, ces films, c'est énorme en termes de recherche.
Bien sûr. Et en fait, on vient leur apporter les conditions idéales pour pouvoir s'imprégner d'un secteur, d'un univers, la connaissance... qu'ils pourraient peut-être avoir par ailleurs, mais qui serait beaucoup plus longue à obtenir. On les fait rencontrer des gens dont c'est le métier, dont c'est la passion, pour qu'ils puissent s'imprégner de leur passion, de leurs histoires, de leur vécu, et puis raconter ensuite une histoire, elle, totalement fictionnée. Donc on fait ça.
Et toi, tu suis tout le process de A à Z, entre les aider sur le long terme, ou quand les projets voient le jour, tu suis
alors
un peu tout...
On peut aider des projets depuis leur création, c'est-à-dire depuis l'idée même, où en fait on va aider les créateurs, les scénaristes à définir leur projet en fonction de leurs désidérata. Et toujours, attention, j'insiste là-dessus, chacun a son couloir de nage. Le scénariste, le producteur, le réalisateur, c'est l'auteur, ce sont les auteurs et les producteurs. Donc c'est bien leur projet. Nous, on est là uniquement un soutien. Alors on peut apporter un soutien éditorial, en les mettant en contact avec des gens qui vivent ces choses-là, la réalité du terrain aujourd'hui, ou avec des historiens spécialistes du sujet. On vient leur apporter de la matière. Ils imaginent une histoire. On peut continuer à les accompagner durant tout le développement. Ce qu'on a fait pour des séries comme Cœur Noir, par exemple.
Ah oui, Cœur Noir.
Ce qu'on a fait pour des séries comme Sentinelle, où là, on a envoyé les scénaristes en immersion au sein d'unités. Donc, des forces spéciales pour Cœur Noir, d'unités classiques pour Sentinelle. On a accompagné le développement des scénarios des différents épisodes qui ont été relus à la fois par le COS.
Tu lis les scénars et tout, toi, et tout
ça? Bien sûr.
Ah oui.
Et donc, on a lu les scénarios pour dire, attention, là, ce que tu racontes dans la vraie vie, c'est pas du tout ça.
Ah oui, il faut quand même une conformité, quoi.
Non, pas forcément, c'est eux qui choisissent.
Tu peux laisser libre aussi.
Oui. Ah ben, c'est leur choix. Oui. Mais on leur dit, voilà, dans la réalité, ça, c'est pas du tout crédible, dans la réalité, c'est plutôt ça qui se passerait, etc. Et puis ensuite, l'auteur décide de prendre ou de ne pas prendre, par rapport à ses besoins en arche narrative, construit son scénario, et jusqu'au bout, il a, par exemple, pour Cœur Noir, mais on a fait la même chose pour Sentinelle, avant le tournage... Donc, on les a accompagnés pendant tout le processus. Et avant le tournage, on a envoyé le réalisateur et les principaux acteurs en immersion au sein d'unités. Mmh. Alors, Cœur Noir, on les a envoyés en immersion au sein du 13e RDP, qui est un régiment spécifique des forces spéciales, où là, les principaux acteurs ont rencontré et pu partager du temps avec, je dirais, des vrais, quoi. Un sniper avec un vrai sniper. Enfin, voilà, pour partager et s'imprégner de leur métier et mieux le rendre à l'écran. Et on a fait la même chose pour Sentinelle. Voilà.
Et tu vas jusqu'à des sujets comme Novembre, qui sont plus, entre guillemets, côté
attentat
et tout ça, à la frontière, où ça reste les armées, quelque part, le GIGN et tout ça.
Alors non, le GIGN, ça reste l'armée, mais c'est la gendarmerie. La gendarmerie ne dépend pas de nous, dépend du ministère de l'Intérieur. Ça reste des militaires, mais dépend du ministère de l'Intérieur. En revanche, tout ce qui est Novembre ou tout ce qui est autre, quand il y a une partie DGSI intérieure, une partie DGSE, donc extérieur, là c'est nous, donc on collabore sur des projets comme ça, donc on collabore sur des projets très différents les uns des autres.
En tout cas bravo, parce que c'est vrai qu'on sent que depuis quelques années ça s'ouvre vachement avec les séries et que finalement ça se décloisonne et les auteurs, en fait c'est vraiment l'imagination des auteurs et des réalisateurs qui permet ça en fait.
Exactement, puis quand on rencontre des auteurs, des réalisateurs, ils viennent nous voir, ils ont une idée. On vient leur apporter de la matière pour qu'ils développent leur idée. On peut les envoyer quelque part. Là, aujourd'hui, on travaille sur la saison 2 de Sentinelle, la série. La saison 2 de Cœur Noir. On travaille sur plein de séries dont je ne peux pas parler parce qu'on a un devoir de confidentialité, bien évidemment, par rapport à nos contacts. Voilà. Mais on travaille sur plein de projets de séries, de films, de longs métrages. Et on fait le lien.
Et tout ça, ça participe au final peut-être aussi à revaloriser l'image de la France. Il y a aussi des... Est-ce que ça soutient certaines valeurs de communication autour de l'armée, qui est un point clé de notre pays, quoi.
Bien sûr, parce qu'en fin de compte, moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Ce que nous faisons, c'est de la communication. Mais de la communication, je dirais, intelligente, quoi. C'est du soft power, quelque part, hein. Ça signifie qu'on met en contact les gens sur des sujets que connaissent les Français et qui intéressent les Français. Ensuite, ils en parlent. C'est leur œuvre, ce n'est pas la nôtre. Et en toute liberté, parce que je le dis, je le répète, ni propagande, ni censure, en toute liberté. Et en fait, ça permet simplement au grand public, aux futurs auditeurs, téléspectateurs ou spectateurs qui vont voir les œuvres en salle ou sur leur écran, de mieux comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert, à travers une histoire, c'est-à-dire à travers des gens auxquels ils vont...
S'identifier, s'attacher
et qui vont les faire rêver. Et sachant que le créateur a une totale liberté. Je vais prendre l'exemple du Bureau des légendes. Malotru. Quand on lit le scénario, Malotru, il commence par faire quoi? En fait, il trahit la France, Malotru. Par amour, peut-être, mais il trahit la France. Bon, c'est assez rigolo, mais de toute façon, c'est le principe même d'une arche narrative. Il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait des différents éléments qui viennent contrer l'objectif. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Lorsque les trains arrivent à l'heure, il n'y a aucune histoire, c'est complètement plat. Donc, nous, on accepte tout ça. En donnant de la matière, et puis le fait de mettre les auteurs en contact avec des gens dont c'est le métier, qui vont venir les nourrir d'anecdotes, de vécus, de ce qu'ils ont vu dans leur vie, c'est de la matière vivante, ça. Moi, j'adore mon métier.
On sent la passion, et c'est vrai que des projets qui ont beaucoup marqué, hein, Bureau des légendes, c'est quand même une des séries qui a le plus marqué ces dernières années, notamment avec 10%. Je sors de l'univers de l'armée pour aller dans la comédie, mais c'est vrai que ces séries ont beaucoup marqué. Alors, tu parlais aussi, je sors un petit peu du cinéma, même si c'est ce que j'adore, et des séries. Tu as parlé aussi d'autres disciplines qui a amené ce monde de l'armée, donc jeux vidéo,
bande dessinée.
Tu as des exemples un petit peu qui ont été marquants.
Bande dessinée, en fait, on a lancé par exemple récemment les Galons de la BD, qui est un grand prix, qui est le prix du ministère des Armées et qui vient récompenser une BD. Le grand prix vient récompenser une BD qui parle d'un sujet soit militaire ou d'un enjeu de défense. Alors, je donne comme exemple, mais ça peut être très large, hein. Ça peut être les prémices d'un conflit, les conséquences d'un conflit, c'est-à-dire tout ce qui est phénomène migratoire, pourquoi pas, hein. Les syndromes post-traumatiques, n'importe quoi, les enjeux de défense comme le nucléaire ou autre. Donc c'est un sujet vraiment très très large qui peut être futur, passé, présent, actuel, peu importe. Je prends deux exemples. Première édition, le Grand Prix a été accordé à La Bombe, qui est un magnifique ouvrage qui raconte l'histoire du nucléaire qui est une histoire très compliquée pourtant.
Tu as vu La Syndicaliste ou pas,
que j'ai vu? Non, je ne l'ai pas vu, pas encore, je dois aller le voir.
Mais c'est intéressant que tu le vois parce que je l'ai vu ce week-end et je trouve que ça pose des vraies questions sur... Alors, je ne vais pas spoiler, comme on dit, ou gâcher le film.
Ah, ne me dis rien.
Non, je dis rien, mais ça pose des questions sur, je trouve, jusqu'où on peut aller à dénoncer des choses qui se sont passées, etc. Ça, c'est une vraie question, parce que ça devient un moment un peu sur un fil avec la politique. C'est,
ah bah,
je ne sais pas quelle vision tu as là-dessus, jusqu'où on peut aller. Est-ce que pour toi, tu trouves qu'il n'y a pas de limite ou qu'il peut y avoir des droits, comme on dit, de prescription ou des... Il y a ça aussi.
Bah, déjà, il y a la loi. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas vu le film. Donc,
Non. Je parlais plus au global.
Mais au global, il y a la loi, donc il faut impérativement respecter la loi. Ça, c'est une chose. Et puis, moi, dans mon secteur, il y a le secret défense. Et le secret défense, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors, je vais donner un exemple. Comment on peut, notamment dans la partie fiction ou création, qu'est-ce que l'on fait? Là, on a travaillé récemment sur la saison 2 de la série Sentinelle. Et donc, l'auteur, le scénariste de Sentinelle, c'est Frédéric Rivine. Est bien connu, c'est assez...
Village français, tout ça.
Exactement, c'est lui qui a fait Village français. Et on a eu une réunion avec des gens chez nous, des spécialistes du sujet. Et Frédéric avait très, très bien préparé ses questions, a posé plein de questions. Il s'était très bien documenté, voulait avoir plein de renseignements complémentaires. Il a eu toutes les réponses à ses questions.
Il m'avait marqué parce qu'il est aussi dans le bureau de la SACD.
Ouais, tout à fait.
C'est un scénariste qui a beaucoup d'expérience.
Il a beaucoup d'expérience. Ouais. Deux, il a une forte personnalité.
Oui, je me rappelle.
Et Frédéric a posé toute une série de questions auxquelles on a répondu à toutes les questions. Et à un moment, a posé des questions qui étaient relatives au secret défense. Et donc, ses interlocuteurs ont dit, là, désolé, mais là, on ne peut pas vous répondre. Non, on ne peut pas vous répondre, c'est du secret défense, donc on ne peut pas. En revanche, ce qu'on peut faire, et c'est amplement suffisant pour une série, ce qu'on peut faire, c'est vous dire, on ne va pas répondre de façon trop précise à votre question, mais en revanche, on va vous répondre de façon théorique. C'est-à-dire que par rapport à l'environnement, à la situation que vous décrivez, en théorie, voilà ce qui pourrait se passer. Maintenant, si vous
demandez... C'est what if, comme diraient les Anglais.
Voilà,
Qu'est-ce qui se passerait si...
C'est exactement, c'est le what if. Et donc, ça, c'était largement suffisant pour construire la série, parce que ça reste tout à fait vraisemblable.
Une bonne manière, quand on fait un pas de côté et qu'on va un petit peu en légère anticipation, on peut raconter des choses assez fortes.
Voilà, donc il y a un, la loi, deux, le secret défense, auquel on ne peut bien évidemment pas déroger pour des questions de sécurité
et loi, c'est respect évidemment de la liberté, de ne pas aller dans la diffamation
ou des
trucs comme ça.
Ce qui est logique.
Et puis il y a
des règles de vie aussi. Enfin, il y a des règles de combat. C'est-à-dire que par exemple, il y a des règles qui régissent le traitement des prisonniers, il y a des règles concernant la guerre. Donc quand il y a des films qui traitent de la guerre, il y a des choses que l'armée française n'a pas le droit de faire, elle ne peut pas faire, elle ne fait pas. Donc là, on va être vigilant à ce que ce soit respecté. Et ça, ce sont des règles légales, donc on respecte les règles légales, voilà.
D'accord. Comment tu vois les Homeland ou les Fauda qui sont vachement bien à l'étranger, marqué, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Les Homeland et Fauda, c'est super.
C'est du must quand même.
On a certaines séries qui s'en rapprochent. Par exemple, je parle de la plus récente, Cœur Noir s'en rapproche, voilà. On peut aller encore plus loin parce que moi, je regrette un seul truc, c'est que l'arène de militaire, je dirais, ou tout ce qui est en jeu de défense au sens général du terme, est totalement sous-exploitée par rapport à l'arène policière. Et on peut raconter plein d'histoires dans le domaine militaire. On peut raconter des histoires qui sont liées à la géostratégie. On peut raconter des histoires qui sont liées à la géopolitique. On peut raconter des histoires humaines, de fraternité, ce qu'on appelle la fraternité d'armes. C'est un grand mot.
Bah, mais
c'est
il faut sauver le soldat Ryan.
Il faut solder, voilà,
ça, sauver. C'était quand même un chef-d'œuvre.
Exactement. Donc, on peut raconter des histoires de fraternité. On peut raconter des histoires d'aventure, parce que c'est l'aventure. On peut en faire des films d'action, parce que c'est aussi de l'action. Le traitement des sujets, c'est un traitement qui peut être très différencié.
C'est souvent les personnages, je trouve, qui permettent d'aller au-delà. Si on prend Il faut sauver le soldat Ryan, le personnage de Tom Hanks, il est tellement magnifique que la main qui tremble. Pour moi, rien que d'en parler, c'est un de ses meilleurs films, je trouve, de Spielberg. Et d'ailleurs, c'est dommage, je crois que les Français lui avaient empêché de tourner. Je ne sais pas si tu connais l'histoire.
Ah non, je ne connais pas l'histoire.
Je crois que ça coûtait trop cher pour raisons un peu budgétaires. Il avait été obligé d'aller tourner en Irlande. Parce que ça aussi, c'est une composante. Je switch de sujet. Mais est-ce que tu crois aussi que parfois, de représenter Il y a des coûts qui sont associés au tournage en France.
Non, alors ça nous on n'y est pour rien, mais il y a des
règles.
Non, mais il y a des règles. Par contre, il y a des crédits d'impôt, etc.
Ah oui, il y a ça. Oui.
Voilà, il y a des crédits d'impôt. Et en fait, le choix des lieux de tournage dépend fortement des aides d'État et des aides de crédits d'impôt que les producteurs peuvent obtenir. Les Belgiques, en Belgique, ils sont très, très forts. En France, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mmh. Et notamment, il y a Film France, qui dépend maintenant du CNC, qui cherche...
Oui, la commission. Ouais.
Voilà, qui cherche à attirer des tournages internationaux. Nous-mêmes, on a accueilli sur nos emprises militaires des tournages internationaux.
Oui, il y en a de plus en plus.
Hein. De plus en plus. La dernière série, Chapeau, avec Michael Douglas, qui raconte l'histoire de Benjamin Franklin, a été tournée en partie chez nous. Voilà.
Donc, il y a quand même des exemples où il y a des exemples en France.
Ah, mais bien sûr. Vrai. Et en fait, nous, on est...
Et il avait dû quand même, pour réhabiliter Spielberg, je pense qu'il avait dû tourner certaines scènes de Arrête-moi si tu peux, qui, je crois, dans un petit village en France. Voilà. Donc, je pense qu'il a déjà tourné en France. Quand même.
Non, mais en fait, nous, on rêve d'accueillir des tournages internationaux, bien évidemment. Et moi, je rêve très sincèrement de faire un Top Gun à la française.
Ah oui.
Et là, l'armée est prête à aider.
Oui. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du dernier Top Gun qui était, j'ai trouvé marquant, moi.
Moi, je l'ai trouvé très bien, le dernier Top Gun. C'est Top Gun. Hein. Oui. Ce sont des images magnifiques. C'est très, très beau. Moi, je pense qu'on est capable de faire la même chose en France.
Ouais. Oui. Par contre,
on n'aura pas forcément Tom Cruise, mais on aura l'équivalent.
Mais c'est vrai qu'en prod, il y a quand même un level où les Américains sont durs à rivaliser quand même.
Oui, là, on parle de budget.
Mais même d'expérience de corps de métier. Il y a quand même tout ce qui va autour Hollywood et le nombre de métiers qu'il y a sur un Top Gun ou un Avatar 2. Faut y aller.
On a la même chose en France.
Oui.
Non, ces métiers-là, on les a. Ce qu'on n'a pas en France, c'est la partie budget. C'est-à-dire que ce sont des films qui coûtent cher à faire. Donc, en France, malheureusement, le coût budgétaire d'un film, les budgets disponibles pour un film sont beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis, à part quelques très rares exceptions. Mais c'est essentiellement une question de coût.
Scénars, tu trouves qu'on n'a vraiment rien à envier aux Américains, toi, sur le travail? Parce que ce matin, on recevait justement un scénariste qui nous disait qu'on était parfois un peu moins collés. Alors, mis à part l'exception Bureau des légendes, où les séries ont commencé à travailler de plus en plus en équipe, c'est vrai que chez les anglo-saxons, ils ont plus l'habitude d'avoir pas mal de scénaristes.
Alors, les showrunners aux États-Unis, le principe de showrunning, c'est-à-dire d'atelier d'écriture, est beaucoup plus développé qu'en France. Donc, en France, on manque un petit peu de showrunners. Oui. Mais c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Là, moi, je le regarde de l'extérieur. On travaille avec la Guilde des scénaristes. On travaille avec la Cité européenne des scénaristes. On travaille avec pas mal de gens.
Ça s'ouvre quand même.
Mais en fait, pour qu'un projet voie le jour, il faut qu'il ait un producteur, bien évidemment. Il faut qu'un diffuseur ou qu'une plateforme ou autre puisse le financer. Et pour pouvoir être financé en général, les gens ont besoin d'assurance, parce que ça coûte très cher, in fine, quand même. Hein. Donc, les assurances sont qui? Ce sont les têtes d'affiche, donc les talents. Mmh. Qui est bankable ou qui n'est pas bankable? Donc ça, c'est la première question. Et plus tu es bankable, plus tu es cher. Ou cher,
ça,
voilà.
C'est
ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils cherchent des scénaristes qui ont déjà fait leurs preuves. Donc en fait, il y a un petit groupe de scénaristes, il y a une trentaine ou cinquantaine de scénaristes qui travaillent tout le temps, qui sont vraiment très, très, très connus. On parlait de Frédéric Révin, il en fait partie. Voilà. Et puis, il y a toute une série d'autres à côté qui sont sans doute très talentueux, mais qui peinent à percer parce que c'est le système qui se mord la queue. Je crois qu'il faut être à un moment, il faut prendre des risques. Voilà. Et moi, je dis, osez prendre des risques, en tout cas sur les sujets qui nous concernent. Venez nous voir, n'hésitez pas à venir nous voir. Si on peut vous aider, on le fera. C'est mon métier, c'est ma passion, c'est ma raison d'être en ce moment dans le job que j'ai, quoi. Vraiment.
Allez, on sent toute ta passion et ton engagement. On arrive à la toute dernière partie du podcast. Alors moi, j'ai commencé à te poser la question sur les autres. Le jeu vidéo aussi est un terrain de jeu intéressant pour.
Alors, on essaie de faire des choses avec le jeu vidéo. C'est très compliqué, le jeu vidéo, d'abord parce que c'est long de faire un film, une série, voilà. Une BD, c'est plus court. Un jeu vidéo, jeux vidéo internationaux,
c'est lourd.
C'est très lourd, c'est beaucoup de dev. Mais on a organisé, par exemple, récemment, en novembre dernier, une réunion où on a réuni au ministère les principaux studios de développement de jeux vidéo en France et les principaux éditeurs, en leur expliquant ce que l'on faisait pour le cinéma, pour l'audiovisuel, pour la bande dessinée, en leur disant, écoutez, welcome, quoi. Si vous souhaitez qu'on puisse vous aider, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est là. Je prends un exemple de, par exemple, Assassin's Creed chez Ubi. Si on imagine un Assassin's Creed qui va se passer à une période particulière ou quoi que ce soit, nous, on peut mettre les gens en contact chez nous avec des spécialistes qui pourront les renseigner, les documenter. Enfin, la même chose que ce que l'on fait avec, dans le monde de l'audiovisuel, de l'image animée. Quoi.
Voilà. Et vous cofinancez aussi les œuvres ou pas ? Non, êtes un soutien.
Un soutien technique, on est un soutien opérationnel, on peut être un soutien éditorial, on apporte en fait un soutien technique en termes de développement, on va apporter de l'expertise. On peut accompagner le développement en mettant à disposition éventuellement du matériel qu'on ne trouve pas ailleurs, en trouvant des gens qui vont pouvoir être conseillers techniques au moment du tournage, au moment du développement, ce genre de choses. On peut accompagner en promo ensuite lorsque ça sort. En revanche, on ne co-finance pas.
D'accord. Okay.
Oui, chacun parce qu'il y a métier. Aussi un rôle de ne pas être partie prenante. Forcément.
On n'est pas partie prenante.
D'accord.
Et je le dis, ça fait deux fois que je le répète, mais je vais le dire une troisième fois, il y a vraiment un maître mot. C'est ni propagande, ni censure. Ce sont leurs œuvres. Mmh. Ce ne sont pas les nôtres. Mais nous, notre intérêt, c'est qu'il y en ait de plus en plus et de toujours meilleure qualité qui mettent en avant, je dirais, notre rôle, notre mission, mais dans sa vraie vie, dans sa réalité et dans sa vraisemblance en tout cas. Voilà.
Alors, je sors un peu de l'entertainment et des armées parce que l'Entertainment Lab, on parle aussi beaucoup de nouveaux médias, des formats de contenu, vidéo, social media. Comment tu vois ces nouveaux formats qui émergent aujourd'hui aussi Voilà, des nouvelles manières de raconter les histoires, les marques qui peuvent peut-être demain cofinancer ces programmes grâce au digital. Comment tu vois ça aussi ?
Alors, moi, je trouve que ce serait très intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup aux nouveaux... Enfin, de par ma vie, quand je parlais du premier métaverse, etc., les premiers services interactifs, je suis quand même assez tournée nouvelles techno, etc. Et aujourd'hui, il y a des supports qui sont totalement sous-exploités et que j'aimerais bien
développer.
Mais sachant que nous, on ne finance pas. Je prends deux exemples. Hein. C'est le podcast et le webtoon.
D'accord.
Voilà. Et des mangas. Les mangas et les webtoons, en termes qu'on parlait de bande dessinée classique tout à l'heure.
Non, on sort du lancement d'un manga, là.
Ouais, c'est
vrai ? Hunter Hunter, oui, au Japon, et dont on a fait toute la campagne publicitaire.
Ah ben voilà. Donc, et les mangas sont très japonais, les webtoons sont très coréens. Il y a plein d'auteurs français qui ont envie de développer des mangas ou qui ont envie de développer des webtoons. Et notamment, j'ai rencontré de jeunes auteurs de webtoons, un collectif de jeunes auteurs de webtoons à Angoulême récemment. Moi, j'aimerais bien pouvoir aider ces jeunes-là à développer des séries. Alors, bien évidemment, sur nos sujets, mais nous, on ne finance pas. Donc, si on peut trouver...
Ah oui, un beau dessin animé, une belle animation.
Mais si un webtoon, un truc qui marque, un webtoon, pour que ça fonctionne, il faut créer toute une série de webtoons, plusieurs épisodes, c'est feuilletonnant, hein. Plusieurs épisodes et puis un épisode par semaine.
Et c'est si sur quel format tu diffuses
le webtoon, le webtoon sur un téléphone.
D'accord.
Le webtoon, c'est de la bande dessinée qui se lit verticalement sur un téléphone, donc c'est assez simple. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des traductions de webtoon coréennes. Mais moi, je me dis qu'il y a de jeunes auteurs spécialisés webtoon. Et si tu me trouves un annonceur prêt à financer ça,
on va trouver là.
Moi, je fonce.
On fait l'appel au micro du lab.
Au micro du lab.
Ça va être bientôt la vocation du lab. On va faire le matchmaking des projets. Ça peut être pas mal.
Parce que là.
C'est quelle durée les webtoons ?
Je peux pas te montrer, mais je te montrerai tout à l'heure. Mais ce sont de courts épisodes. Un webtoon, on va raconter une histoire feuilletonnante. En général, il faut minimum un webtoon par semaine pour fidéliser le truc. Ça se lit sur un téléphone portable, donc c'est rapide. Ça va durer quoi ? 5 minutes à peine ou 10 minutes éventuellement, mais ça va être assez court quand même. C'est un dessin assez simple. On va raconter, on va créer un jeune héros. En général, le jeune héros, la jeune héroïne, ce sont des gens qui cherchent à à s'identifier, à devenir plus grand, à faire des choses. On peut raconter plein de trucs là-dessus.
Tu lirais aux armées ou pas forcément ? Non, termes d'univers, à voir.
Pour moi, il faudrait que ce soit quelqu'un, bien évidemment, dans mon univers. Enfin, voilà,
on peut trouver une narration.
Mais trouver quelqu'un qui imagine des aventures,
non, c'est une bonne idée,
qui imagine des aventures sur un support webtoon qui se passe dans l'univers d'un jeune homme qui veut rentrer dans l'armée, ou peu importe, c'est qui s'intéresse au sujet de défense. On n'a pas besoin qu'il rentre dans l'armée, mais vraiment traiter de sujets.
On va se mettre sur le brief.
traite de sujets-là. Nous, on est prêts à l'envoyer en immersion, lui faire rencontrer des gens, etc. Tu trouves l'annonceur.
Non, mais ce que tu dis, moi, j'y crois beaucoup, c'est de comment créer une sorte d'IP, effectivement, d'histoire avec un angle, un format, et trouver effectivement une marque, un sponsor partenaire. Et je pense, nous, on est en train de le faire. On voit que les marques maintenant commencent à être mûres, où on soumet des projets maison. Donc, on inverse, c'est pas que un brief, c'est vraiment, on a une idée un peu en commun, un territoire. Et on sent que les marques commencent à être mûres pour ça. En fait.
Moi, je crois beaucoup au brand content. C'est ton métier.
On est dedans.
Moi, je crois beaucoup au brand content. Parce que le brand content, à travers du brand content, c'est-à-dire à travers une histoire que l'on va raconter sur un sujet qui n'est pas la marque en tant que telle, mais qui est proche de l'univers de la marque, on peut faire passer beaucoup de messages.
Ah, voilà. C'est sûr.
Et je pense que le brand content, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et trouver un sujet, un brand content qui puisse permettre de financer de la création webtoon, parce qu'on a en France une matière grise en matière de créativité, d'imagination et
autres. C'est plus les moyens le problème.
Qui est énorme. Oui. Il faut trouver maintenant les moyens de faire fructifier tout ça.
Et ça permet d'ouvrir le champ des diffuseurs audiovisuels qui sont quand même petits. C'est un micro-marché.
Exactement.
Donc, c'est là où les marques peuvent jouer un rôle.
Voilà. Et je me dis qu'il y a peut-être un champ à investir qui me semble très intéressant sur notamment tout ce qui est nouveau support. Alors, je parlais des webtoons, on peut parler des podcasts, on peut parler de pas mal de choses sur des chaînes YouTube, des sessions YouTube, enfin, ou quoi que ce soit. Il faut trouver le moyen de, je dirais, de rendre ce secteur qui est très, les Anglais disent « buoyant ».
Comment tu traduis ce mot ?
« Buoyant », qui est très vivace, qui est très vivant, qui est très
créatif,
énergisant. Il faut trouver un moyen de le financer, quoi. Voilà. Nous, on peut apporter du contenu, en tout cas du soutien éditorial.
On va brainstormer sur ton brief, très intéressant. Et alors, on arrive à la fin. Alors moi, j'ai une petite question que je pose souvent aux invités, c'est sur tes goûts plus en termes de création, films, séries, musique, lecture, des choses soit qui t'ont marqué de manière récente ou même depuis plusieurs années, des œuvres qui t'accompagnent, on va dire.
Alors moi, des œuvres qui m'accompagnent, je vais parler de deux livres. Qui m'ont toujours accompagnée. D'abord, un, c'est Le Comte de Monte Cristo.
Ah oui, moi, ça m'a marqué aussi.
Alors, enfant. Moi, Le Comte de Monte Cristo, je l'ai lu plusieurs fois, mais ça me fascine toujours parce que c'est intemporel. C'est à la fois...
Edmond Dantès.
Voilà, exactement. Et puis, c'est à la fois la résilience, c'est l'aventure, la résilience, la force de caractère. Enfin, c'est extraordinaire. Donc,
tu souscris au sujet sur la vengeance, parce que c'est quand même une histoire de vengeance, où tu trouves que ça, c'est...
Non, parce que c'est une vengeance qui est sublimée. Oh, puis attendez, les salauds, ça reste des salauds. Hein.
Oui, c'est vrai. Danglars et tout ça.
Voilà. Donc,
c'est vrai que ça m'a marqué beaucoup, ce roman, quand j'étais jeune.
Moi, c'est un roman qui m'a profondément marqué. Et ensuite, un deuxième livre qui m'a profondément marqué, c'est La part de l'autre, d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, je ne sais pas si tu connais le livre.
Si. Redis-moi un peu le sujet.
La part de l'autre, c'est l'histoire d'Hitler, en fait. Et les chapitres se chevauchent. Donc, c'est l'histoire d'Hitler, le vrai Hitler, enfin l'histoire que l'on connaît, qui a commis toutes ces horreurs qui ont conduit à la Shoah, etc. Enfin bref, celui que l'on connaît, que l'on exècre. Et en parallèle, l'auteur a imaginé ce qu'aurait pu être la vie d'Hitler s'il avait été reçu aux Beaux-Arts.
Ah oui, c'est un très bon pitch, ça.
Et on voit ces deux...
Donc c'est un what if encore.
Exactement, what if. Et on voit les deux...
mondes,
deux mondes et les deux évolutions de ces deux personnes, de ce même personnage, avec le what if. Et ça montre, je dirais, la fragilité de la destinée humaine. Voilà. Je pense qu'on est chacun maître de son destin. Quand on fait des choix... il faut qu'on pense aussi aux conséquences de ses choix, quoi. Et là on voit vraiment la différence, quoi. Dans la deuxième version, il réussit, je ne vais pas déflorer le livre, mais il est extraordinaire, ce livre. Il a fallu que je m'arrête même de le lire à plusieurs reprises, parce que l'auteur arrivait à me faire comprendre l'espèce de folie dans laquelle Hitler s'était enfermé. D'accord. Et je finissais par le plaindre, ce pauvre homme.
Faire quand même. Comme la chanson de Goldman, né en 17 à Leidenstadt.
Voilà. Je ne me suis pas identifié à lui, pas du tout.
Évidemment, mais tu as pu comprendre, enfin en tout cas, comprendre le personnage.
Pas comprendre, mais en fait, c'est terrible parce qu'on voit l'engrenage dans lequel il s'est enfermé et ce qu'aurait pu être sa vie. C'est un film extraordinaire.
Non, c'est fort, hein, tu l'as très bien raconté. Et il y a eu un film ou pas dessus ? Pas encore, non ?
Pas à ma connaissance.
Pas à ta connaissance.
Non, pas à ma connaissance.
Et sur les films d'armée, parce que ça, on en a un peu parlé tout à l'heure, des films de tout temps qui t'ont marqué sur ce sujet de la guerre, c'est peut-être un grand film, il y en a beaucoup.
Il y en a eu beaucoup. Hein. Apocalypse Now, c'est un film extraordinaire. Les films de Catherine Bigelow, elles sont extraordinaires. Des mineurs. Des mineurs, moi, j'ai trouvé ça... Des mineurs, moi, quand je vois le courage de ces hommes...
Et c'était fort, des mineurs.
C'est très, très fort. Et quand on voit l'espèce de... Voilà, il faut soulever le soldat Ryan qui n'a strictement rien à voir, c'est encore autre chose. Non, il y a plusieurs
les Kubrick et tout ça, t'aimes bien les Full Metal Jacket, les
moins.
Mais ou même moi j'aime de la gloire.
Voilà, mais moi j'aime bien les films dans lesquels on voit les dilemmes. Oui. Voilà. Alors, on voit les dilemmes, on voit l'angoisse. On voit la, je dirais, l'engagement, la subtilité, et ça, ce sont des choses qui sont très fortes parce que il faut pas oublier que nos soldats, qu'ils soient français ou américains, ont une notion de l'engagement qui peut aller jusqu'au sacrifice suprême, le sacrifice de leur vie, que moi je respecte profondément. Et quand dans un film on voit ça, moi ça m'émeut, quoi, ça me tord les tripes. Moi, je me dis, mais jamais je pourrais faire ça, quoi. J'ai pas leur courage.
C'est des thèmes très forts, quoi. Exactement. Sur l'honneur et tout ça. Et alors, toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui voudrait travailler au ministère des Armées, par exemple, ou bien dans l'univers audiovisuel.
Je crois qu'il faut oser. Il faut n'avoir peur de rien. Alors, au ministère des Armées, il faut nous écrire, tout simplement, voilà. Et si on peut aider, on aidera. Et puis, dans l'univers audiovisuel, il faut oser, il faut prendre son courage de main, il faut aller frapper à plusieurs portes, parce que c'est un univers qui est aujourd'hui en plein bouleversement. Tout est à construire, tout se développe, ça part dans plein de directions. Je trouve qu'on vit une période difficile, mais une période très fantastique, parce que pleine d'opportunités. Et ces opportunités, il faut être là au bon moment pour savoir les choisir et pour savoir les prendre. Mais pour les prendre, il faut oser les prendre.
Bon, on finira sur le mot oser. Merci beaucoup, Evelyse. C'était un grand plaisir de t'accueillir à l'Entertainment Lab.
Merci à toi et puis merci à tous vos auditeurs. Et à très bientôt, j'espère.
Au revoir.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.